Salut Daniel, c'est Lucas à l'appareil, Lucas de Picardie. Je suis effaré d'entendre le trésor de France Inter, là, qui est consacré pour une grande part au problème de CCD1, notre super présentateur qui va peut-être partir, on n'en sait rien encore. Mais c'est symbole de quoi ce mec-là? Symbole de la concussion, de la vénalité, de la non-éthique. C'est pas un Albert Londres, ce mec-là, c'est tout sauf Albert Londres avec ses fausses interviews de Castro, ses magouilles avec le boton, la légende de Michel Noir, etc. Mais je suis scandalisé en entendant ça, moi. C'est un symbole, justement, des petites couilles molles de journalistes qu'on a de partout et qui font pas leur boulot. Hein. Et PPDA, il doit se dire aujourd'hui, avec toutes les questions mielleuses et que j'ai pu poser, on me débarque, je suis un peu dégoûté. Mais moi, je dis mais que ça. Il faudrait qu'il y ait un ménage, mais vraiment un gros, gros ménage. Hein, et puis aller chercher des journalistes qui en valent la peine, qui posent des questions dérangeantes, comme dans les autres pays. Quoi. Et nous, on a des petits moutons. Allez, salut Daniel, et toi, tu fais partie de ces journalistes que je respecte. Salut.
Bonjour, alors là, c'est les parents des écoles du 13e arrondissement. Comme beaucoup d'entre nous, M. Darcos a visiblement des problèmes avec la règle de 3. Alors, on voulait vous en proposer une petite à résoudre. 45 000 élèves en plus à la rentrée 2008-2009 en France à l'école pour 700 profs nommés. Alors, je vous le donne en mille, ça fait 65 enfants par classe. Et la solution, bien sûr, c'est de fermer encore plus de classes. Alors, nous, on est en colère. On se mobilise, on occupe nos écoles et on vous invite à vous joindre à nous pour résoudre cette étrange équation. Mercredi matin, 11 juin, devant l'inspection d'Académie, 94 avenue Gambetta à Paris. Et où seront décidées évidemment les fermetures de classe définitives. L'école de nos enfants est en danger, ça c'est sérieux. L'avenir de nos enfants est menacé. Si vous pouvez faire passer le message, merci et beaucoup, à très bientôt. Ciao.
Salut Daniel, il y a quelques jours j'ai reçu un étrange courrier de ma banque qui m'encourageait à investir dans des actions basées sur les matières premières, en particulier le pétrole et le gaz. Alors dans un premier temps j'ai trouvé ça complètement scandaleux en me disant les 3 francs 6 sous que je vais gagner d'un côté, je vais les redépenser de l'autre en prenant de l'essence et en chauffant ma maison. Mais après j'ai trouvé ça très encourageant parce que je me dis que c'est le libéralisme qui est en train de se tirer une balle dans le pied. Et moi je suis ravi parce que on va peut-être arrêter de fabriquer tout et n'importe quoi en Chine parce que ça va coûter cher de le ramener en Europe. On va peut-être arrêter de faire décortiquer des crevettes au Maroc alors qu'elles sont pêchées en mer du Nord. Bref, de tout construire en plastique et de jeter plutôt que de réparer. On va peut-être refaire des voies ferrées. On va peut-être mettre les marchandises sur les trains, enfin. Donc voilà, c'est le libéralisme qui est en fin de cycle, à mon avis, avec ce pétrole à 140 $ le baril, voire plus dans les jours à venir, pour le parier. Et je trouve ça très bien, et je suis désolé pour les camionneurs ou les pêcheurs, pour leur avenir, mais moi je suis ravi pour l'avenir de leurs enfants et l'avenir de la planète. Allez, salut et au revoir.
Bonjour Daniel, tout là-bas, si j'y suis, et les AMG. Je vous appelle du repère d'Aix-en-Provence afin de vous donner le tout prochain rendez-vous. Ce sera ce mardi 10 juin à 19h30 à la brasserie Le Mansart, place Martin Luther King, dans le quartier d'Ancagnan. En cette veille de référendum irlandais, le thème de ce repère sera l'Europe. Les médias font mine de s'inquiéter du résultat de ce référendum alors que le Parlement européen projette de n'en tenir aucun compte. Il faut le savoir. Ce sera un repère fait maison, sans intervenant particulier, juste entre nous. Alors, à mardi, 27 mai à 19h30 précise, 10 juin à 19h30 précise, s'il vous plaît, au Mansart, au repère d'Aix-en-Provence. Merci et bonne journée à tous.
L'appel. Les SS en pèlerine noire sont passées. Elles ont compté. On attend encore. On attend. Depuis des jours, le jour suivant. Depuis la veille, le lendemain. Depuis le milieu de la nuit, aujourd'hui. On attend. Le jour s'annonce au ciel. On attend le jour parce qu'il faut attendre quelque chose. On n'attend pas la mort, on s'y attend. On n'attend rien. On attend ce qui arrive. La nuit parce qu'elle succède au jour. Le jour parce qu'il succède à la nuit. On attend la fin de l'appel. Bon, je vous ai lu ce petit passage. C'est la page 37 du livre de Charlotte Delbo. Aucun de nous n'en reviendra. Pourquoi je vous dis ça, je vous dis ça aujourd'hui? Bien parce qu'on est le 8 juin et que je l'ai acheté le 8 juin. Je ne l'ai pas retrouvé par hasard. C'est parce que je m'en rappelais. Je me rappelais que je l'avais acheté le samedi 8 juin 2002. Et je me suis dit, tiens, je vais rechercher ce livre aujourd'hui. Il était pas loin, je l'ai trouvé vite. Parce que c'est vrai que j'ai la mémoire des dates. J'ai entendu un spécialiste là des rapports des couples, celui qui passe tout le temps à la radio. J'ai entendu chez Vidar l'autre jour. Et tu dis que ce sont les femmes qui ont la mémoire des dates d'habitude. Et les hommes, ils s'en foutent, quoi. Les hommes, ils ont une femme, ça va, tranquille. Les femmes, elles aiment bien qu'on se souvienne des choses, il paraît. Mais chez nous, c'était pas ça. C'était moi qui me souvenais. Bon. Tout le monde n'est pas pareil, peut-être.
Il y a la base, il y a France Inter, il y a la base, j'y suis. Et dans la base où j'y suis, il y a le répondeur. Et dans le répondeur, il y a Radio Claude. Les messages merveilleux et toujours surprenants de Claude et les autres aussi. Une précision sur le rendez-vous du le repère, le Mansart, place Martin Luther King, le repère des amis de la base où j'y suis, d'Aix en Provence. Notre ami dit, ce sera juste entre nous, mais pas du tout. C'est pas juste entre nous, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous si vous habitez dans le coin, si vous avez envie de voir la tête qu'ils ont, la tête pour les autres, si vous avez envie de ramener votre fraise et votre grain de sel en même temps, eh ben, allez-y, je le répète, ce sera au Mansart, place Martin Luther King, le 10 juin. Au soir. Et puis la grande nouvelle, vous la connaissez bien sûr, c'est que le DVD Chomsky est enfin terminé et va parvenir à tous ceux qui ont souscrit, très nombreux. Et puis si vous voulez encore souscrire, vous avez encore quelques jours jusqu'au 18 juin minuit. Et pour tout savoir, vous allez sur labas.org, là-bas.org, là, vous ne pouvez plus ignorer quoi que ce soit de ce phénomène médiatique. La Chine, on continue. Suite et fin de la Chine aujourd'hui, il manquait évidemment la présence française en Chine. Et la présence française en Chine, c'est la présence de l'économie française. C'est la présence des entreprises françaises. Effectivement, ce que disait tout à l'heure cet auditeur avec les problèmes de la crise pétrolière aujourd'hui, l'augmentation du prix du baril du pétrole, et bien la délocalisation va peut-être être revue, qui sait. On peut toujours rêver. Je ne sais pas si on va rêver jusqu'à 16h, mais j'espère que ça va vous passionner, ce retour en Chine avec les entreprises françaises. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour, monsieur Mermet, c'est Emmanuel de Paris. Eh bien, je pense, Dieu sait si nous ne sommes pas du même bord politique, mais donc je peux vous considérer, entre guillemets, comme un ennemi, mais un ennemi tout à fait respectable. J'avoue que j'apprécie ce que vous avez dit sur monsieur Boson, j'aime bien la manière dont vous défendez vos idées, bien que ça ne soit absolument pas les miennes. Voilà, en cela, vous êtes tout à fait respectable, vous et vos auditeurs. Au revoir.
Bonjour, monsieur Mermet. Bonjour à toute l'équipe. Mes coordonnées téléphoniques, 04 94 76 97 98. J'écoute l'émission ce matin, là, sur France Inter. Il y a un ministre qui parle, et il parle d'égalité. Et il dit que la gauche n'a jamais réussi à faire une situation égalitaire. Et là, je me poile un peu, parce que alors, eux, ils sont en train de détruire tout ce qui tenait debout. C'est-à-dire que les gens sont de plus en plus dans la pauvreté, dans la précarité. Il n'y a plus de loi sur le travail, il n'y a plus de loi sur rien. Et ce type est en train de dire qu'il travaille pour l'égalité des gens, alors que lui vit dans le luxe et que les autres crèvent de faim. C'est terrible d'entendre des choses comme ça. C'est terrible. Bonne journée tout le monde. Au revoir.
Alors les Biloutes, bonjour. Petit message là pour la réunion à Lille, dans le Vieux Lille, Café l'Imaginaire, ce lundi soir à 20h. Hein. Alors, depuis mon message de la semaine dernière à Danny Boone, on n'a pas eu de réponse hein, concernant les fêtes et puis la destruction des collèges et des lycées dans le Nord-Pas-de-Calais. Hein. Mais peut-être que Dany va venir ce soir, à l'imaginaire. Dany, tu téléphones à Daniel Mermet, là-bas si j'y suis. Ok ? Alors on vous attend tous nombreux, hein, puisque s'il vient, ce sera la fête. Allez, Ciao.
有时候一天一宿都干，一天一晚上都干。
Des fois, je travaille toute la journée, du matin jusqu'à la nuit.
Mais je dis souvent, ce qui a fait la richesse de la Chine aujourd'hui, c'est tous ces petits ouvriers qui ont travaillé durement et qui ont enrichi leur pays.
C'est-à-dire qu'on a une usine où les gens chez nous travaillent aujourd'hui 212 jours par an, 8 heures par jour.
Alors qu'ici ?
Ici, on travaille 330 jours par an et 8 heures par jour pour 5-6 fois moins cher.
Si la Chine est là aujourd'hui, c'est grâce à tous ces petits ouvriers.
À
partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h le soir. Je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine ?
Non, il n'y a pas de jour de repos.
Le modèle chinois est un modèle économique paradigmatique. Tout est fait pour favoriser le développement des entreprises. Parce que si on veut avoir des œufs, il faut soigner la poule. Hein, et non pas la couper en morceaux comme on est en train de le faire en France.
如果我在那边，là-bas si j'y suis，France Inter，法国国家广播电台。
C'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Vanctil, grâce à tous ces petits ouvriers.
Flight number two.
L'ouvrier chinois volontaire, l'ouvrier chinois a envie de travailler. Mais ici, si on décide que, par suite d'une augmentation du carnet de commandes, on va passer à 2 heures supplémentaires par jour, c'est accueilli avec plaisir, hein, avec plaisir. Et mon problème est plutôt de tenter de limiter les heures supplémentaires que de les demander. C'est-à-dire qu'eux vont systématiquement essayer de faire des heures supplémentaires.
Ça me fait penser à la phrase de Nicolas Sarkozy, qui veut gagner plus, travaille plus.
Oui, bah oui. Ça ici, c'est ça à 150%. Vous avez des ouvriers qui non seulement vont faire leurs 12 heures de travail, ou normalement leurs 8 heures de travail par jour, mais vont refaire encore 4 heures de travail, comme elles vont rentrer dans leur famille à tenir une boutique le soir. Tout le monde comprend ici que le développement doit passer par d'abord le développement économique des entreprises.
Et ben voilà ce qui nous attend. La France de demain, c'est la Chine. Travailler plus pour gagner plus. Comment expliquer autrement cette fabuleuse croissance chinoise qui en fait baver plus loin? Le monsieur que vous avez entendu, ne croyez pas que c'est rue des entrepreneurs. C'est le boulevard des entrepreneurs. C'est l'autoroute des entrepreneurs. C'est le paradis des entrepreneurs. C'est la Chine. Évidemment, aujourd'hui, pas un jour sans la Chine. Le monde entier est à l'heure chinoise. Hommes d'affaires, politiques, journaleux chantent sur tous les tons la formidable machine à croissance chinoise. La Chine, première puissance économique du 21e siècle. Et peu à peu s'installe en Occident la certitude que l'empire du milieu est un Eldorado doublé d'une terre promise. Eh ben, oui, sauf pour les petits ouvriers, c'est-à-dire ceux avec la sueur desquels et sur le dos desquels se fabrique ce miracle, et puis aussi quand même des entrepreneurs et des investisseurs qui commencent à en rabattre gentiment, notamment les entrepreneurs français. Faut-il vraiment délocaliser ? Fallait-il vraiment démolir complètement le tissu industriel, économique français, avec tout ce que nous savons, pour un tel horizon, même si ce n'est pas le seul? C'est pas seulement en Chine qu'on a délocalisé, mais enfin, il y a quand même 800 entreprises françaises qui sont présentes en Chine, des petites, des moyennes et des très grosses. On va voir un petit peu dans quel climat, dans quel esprit tout cela se passe. Et puis, on rencontrera ces Chinois qui sont conscients de tout ça, notamment le docteur Liu Keiming, qui est déjà intervenu dans l'émission, directeur de l'Institut d'Observation Contemporaine, et qui nous dira un petit peu comment il voit les choses, comment ça se passe pour ces petits ouvriers. C'est jusqu'à 16h. C'est la Bassi-Chine. Suis.
Nous sommes tout au sud de la Chine, pas très loin de Hong Kong. Un endroit complètement désert il y a quelques mois et qui est en train de devenir une petite ville française, grâce à cet homme. Joël Pujol s'est installé il y a une dizaine d'années à Canton. Son métier, aider les entreprises à s'implanter en Chine. Il vient de créer ici son propre parc d'entreprises où il s'occupe de tout. Au patron français qu'il appelle, il propose de se charger des formalités, du recrutement, de la formation et même de la construction de l'usine, comme cet échafaudage en bambou qui va accueillir une PME française.
Ça sera prêt dans un an, dans deux ans?
Cette usine-là sera prête dans deux mois.
Voici la prochaine usine. On y produira des plastiques et du textile et tout autour des terrains vagues où l'on attend les PME françaises.
Eh bien oui, il fuit cette France archaïque, cette France hostile à l'entreprise avec la lourdeur de ses règlements, de ses chars, de ses syndicats et surtout de ses 35 heures. Ce seront ces patrons français qui s'installent ailleurs et notamment en Chine. Vous avez compris, ce petit document que nous vous avons fait entendre présente Joël Pujol. C'était il y a 4 ans. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que Joël Pujol s'est installé a installé aussi ce parc industriel de Xiaolang. Et il est l'initiateur de ce projet et il est incubateur. Incubateur, ça veut dire que il facilite. On avait rencontré, souvenez-vous, un facilitateur. Lui, il était chinois et il était là pour permettre aux entreprises françaises de s'installer. En Chine, toutes les... Parce qu'il y a quand même quelques règles, pas beaucoup, enfin, il y en a quelques-unes. Puis, il faut faire attention quand on arrive dans des lieux sauvages, le capitalisme sauvage, la sauvagerie, il faut s'en défendre et il faut s'en méfier. Et c'est une des activités de Joël Pujol qui est là donc pour accueillir les PME qui cherchent à s'installer, qui veulent s'installer. Et, dans ce parc industriel, il y a une pépinière d'entreprises, 18 entreprises qui sont rassemblées et dont nous parle avec talent Joël Pujol.
Joël Pujol, déjà un petit mot pour décrire où on est. On arrive chez vous, tout d'un coup on passe une première grille, une deuxième grille, une troisième grille avec des gardiens en uniforme et un petit macaron qui dit Global Village. Et on est dans un endroit avec des tours, mais pas des tours de HLM, quoi, des tours grand luxe, marbre, boiserie apparente, un jardin extraordinaire au milieu. Ça ressemble à ce qu'aux États-Unis on appelle les gated communities, c'est-à-dire ces endroits fermés pour privilégier, en gros.
C'est un peu comme ça en Chine, mais c'est parce que c'est pas n'importe qui non plus qui habite ici.
C'est pas des prolos.
Non, pas vraiment. Si vous voulez, c'est toute l'habitude. La Chine n'est pas très belle aujourd'hui. On est dans une zone industrielle, donc derrière et dehors, vous l'avez vu, hein, vous avez pris les autoroutes très embouteillées, il y a beaucoup de pollution. Et le seul espace qu'ont les Chinois à un moment ou à un autre de voir du beau, c'est de fermer un cercle d'immeubles et puis à l'intérieur de cet immeuble, ils créent des jardins. Le jardin que vous avez devant vous, il a été comme ça alors que les immeubles n'étaient même pas encore finis d'être construit. Donc ça veut dire que quand vous venez ici, vous avez remarqué, il y a cette petite rivière, des petites cascades, des chutes d'eau, il y a 200 ou 300 essences d'arbres, des pelouses, des petits poissons un peu partout. Bon, c'est un peu magique, mais c'est le moment où ben, vous vous relaxez et vous pouvez arrêter dans la furie de ce monde lancé à 200 à l'heure.
Alors qu'est-ce que vous faites le reste du temps quand vous n'êtes pas arrêté dans votre intérieur en marbre et en boiserie ?
Disons que cet intérieur-là, il profite à ma femme puisque moi, j'y suis jamais. J'ai jamais le temps d'y être parce que la Chine, c'est 7 jours sur 7. C'est pas 24 heures sur 24. Les autres sont à 24 heures sur 24. Pas moi, je reste encore français. Mais on est bien occupé une dizaine d'heures par jour et tous les jours de la semaine. Et même le dimanche où on pourrait se dire on va se reposer, ben non, le dimanche, on continue et on essaye d'établir ce qu'on appelle le guangxi, c'est-à-dire des réseaux relationnels qui font que votre entreprise, elle va pouvoir continuer, elle va pouvoir se développer et que vous allez trouver des supports, des gens qui sont dans les administrations, dans le gouvernement ou dans des clients potentiels capables de vous aider. Alors la nouvelle mode aujourd'hui en Chine, c'est le golf, donc les gens vont golfer. Je suis nul au golf, donc l'affaire est réglée, mais ça m'empêche pas de les accompagner quelque part parce que c'est vraiment là que ça se fait.
Ah ouais ?
Ouais. Le business se fait là parce que tous les grands capitaines d'industrie, tous les administrateurs vont toujours, ça participe de la même idée, c'est essayer de retrouver un moment dans le rush où on peut être ludique, se reposer un petit peu et travailler quand même. Hein, parce que le Chinois, il sait pas s'arrêter de travailler.
Ouais. Votre métier, vous le définissez comment d'ailleurs ? Incubateur d'entreprise ?
Ouais, moi, je suis un incubateur, c'est-à-dire qu'un coach d'entreprise. À un moment ou à un autre, j'ai choisi mon camp. Moi, je suis français. Et je suis là pour aider les PME françaises à s'implanter. Et pour ça, je vais négocier comme un chien les meilleures possibilités d'implantation face aux autorités, aux administrations chinoises. Vous savez, il y a un proverbe chinois qui dit « J'ai mis un an à savoir dessiner un cheval en 5 minutes ». Ben, c'est ça que je fais. Mon métier, c'est mettre 6 mois pour apprendre aux usines à fabriquer. Et au bout de ces 6 mois, on appuie sur le bouton et là, il n'y a plus de fin.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement comme travail ? On fait les gouttières. Et combien on gagne quand on fait ce travail-là ?
C'est entre un peu plus de 1000 kuai et puis jusqu'à 2000 à peu près.
Entre 100 et 200 euros. Quoi.
Entre 100 et 200 euros. Et c'est bien payé, ça ?
Non, c'est pas beaucoup.
Vous vivez dans les baraques, là-bas ? Vous dormez dans les baraques ?
Ouais, c'est dans des dortoirs.
D'accord.
Ouais, c'est comme à l'armée.
Alors qu'est-ce que vous espérez ?
Ouais, bah bien sûr qu'on va faire fortune. Chacun.
Et toi, de quoi tu rêves ?
Moi j'ai envie de rentrer chez moi, voir ma femme et mes enfants.
Et ils sont loin ?
Ah, moi je viens du Renan.
Mais ça c'est loin le Renan.
Ouais, c'est vraiment loin.
1 milliard 400 millions, 1 milliard 500 millions de Chinois. Le chiffre varie, les chiffres varient énormément concernant la Chine, tant il est difficile de produire des chiffres dans un pays comme celui-là. L'État ayant le monopole de la production de ces chiffres. Alors on n'est pas à 200 millions près concernant le nombre de Chinois. Pas plus qu'on est à quelques dizaines de millions près concernant les Chinois qui ont les moyens de consommer en Chine. On estime cependant entre 150 et 250 millions de Chinois, ceux qui ont un niveau de vie semblable aux Européens. Voilà, ça c'est un marché et c'est une. Mais les autres, si c'est 1 milliard 400 millions, alors on compte quelques dizaines de millions de très riches, voilà, 200 millions ceux qui ont les moyens, le niveau de vie des Européens, et puis tous les autres, et puis parmi ces tous les autres, une énorme masse qui ressemble à ceux que vous venez d'entendre, qui sont des Mingong, c'est-à-dire ces travailleurs migrants venant de leur campagne, venant des zones rurales. Je rappelle que 65% de la Chine reste rurale et qui constitue ces petits ouvriers, comme dit la dame française, enchantée par ces petits ouvriers qui font tout le boulot. Alors on est avec Joël Pujol, entrepreneur français, incubateur, qui est là pour faciliter l'implantation des entreprises françaises. Ça peut vous intéresser.
Aujourd'hui, on ne peut pas faire de business dans ce pays si quelque part, on n'est pas aussi membre du PC. C'est pas pour rien que, de plus en plus, le PC, qui était ouvert simplement à des administrations, laisse aujourd'hui rentrer des hommes d'affaires. Hein. C'est-à-dire, c'est l'économie de marché qui est extrêmement bien installée. Il n'y a pas plus capitaliste aujourd'hui en Chine qu'un Chinois.
Et ça, c'est complètement schizo, d'une certaine manière.
Schizo ou pas, c'est de la façon dont le monde marche. Donc, on peut pas y échapper. Mais ça marche et ça marche remarquablement bien.
Parce que le Parti communiste chinois est un gage de stabilité. Et qui dit stabilité dit bon pour les affaires.
Voilà, c'est exactement ça. Alors, pour vous parler de stabilité, par exemple, c'est moi, je suis arrivé en 92. 92, un ouvrier se négociait aux alentours de mémoire de 60 euros. Bon.
Maintenant, il vous coûte combien, l'ouvrier?
Bah, un ouvrier non formé, hein, coûte entre 90 et 110 euros. Bah, ça coûte de plus en plus cher, mais...
Non, mais un exemple aussi, parce que vous parliez de combien coûte un ouvrier ici. Ouais. Un ouvrier français, ça vaut combien d'ouvriers chinois?
Écoutez, je suis parti, ça fait 17 ans de France. À combien est l'ouvrier français aujourd'hui?
Disons 1100 euros, quoi.
Bah, voilà, c'est 10 fois moins. Hein. Un ouvrier non qualifié, c'est 10 fois moins.
Il ne demande pas plus, l'ouvrier, à force, parce que le...
Non. Malheureusement, je veux dire, même s'il demande plus, on va dire que la force de la Chine, quelque part, c'est d'être capable de mettre 20 000 bonhommes demain matin sur un chantier. Bon, ça veut dire que tous ces gens qui viennent sur la bande côtière, et je vous rappelle que la bande côtière, c'est rien par rapport au réservoir humain qu'il y a dans le reste de la Chine.
Des régions comme le Henan, où on est passé, où il y a 100 millions d'habitants.
Quoi. Oui, ou dans le Guangxi,
pauvre.
Ou dans le Sichuan, ou dans la montagne. Vous voyez, ça arrive sans arrêt en ville. Si vous allez dans les gares, vous allez voir ce flux migratoire infernal. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met un petit panneau feuille A4 sur le poteau d'entrée du parc européen et vous avez 200 ouvriers dans la journée. On trouve des ouvriers sans aucune difficulté. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle des migrants. Hein. Donc vous en avez beaucoup parlé dans la presse. Et les migrants n'ont pas nécessairement les mêmes droits que les autres.
Ils n'ont pas accès aux soins, ils n'ont pas accès à l'éducation.
Alors, dans certaines entreprises, je veux dire que dans les entreprises que je gère notamment, et plus largement dans les entreprises françaises, on joue pas ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas Zola, on n'est pas des exploiteurs non plus. On est venu pour conquérir un marché, mais dans la dignité. Alors, donc, pas d'enfants, et puis, payons des cotisations sociales aux employés. Alors, c'est assez amusant, parce que je suis pas non plus un mécène.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'à vous entendre, on a l'impression que vous êtes une ONG, là.
Ben, voilà, je vous explique. Je suis pas un mécène, parce que, pour 100 balles de plus, enfin, 10 euros, 20 euros de plus ou de moins, c'est une bêtise. Charge sociale, si on parle de Cirlan, 10% charge sociale pour l'employeur, 10% pour l'employé. Bon, si vous avez un salaire de...
Mais c'est quand même vachement moins qu'en France, hein.
Bah oui, forcément. Il n'y a pas photo.
Ça, c'est le grand stade.
Hein?
Ce sera le grand stade. Ah, c'est pas mal quand même, hein. On est dans le chantier du site des Jeux Olympiques de Pékin 2008.
Des fois, je travaille toute la journée du matin jusqu'à la nuit. À partir de 5h du matin. Jusqu'à 10h le soir. Je suis disponible pour bosser.
Et combien de jours par semaine?
Non, il n'y a pas de jour de repos. Tous les jours de la semaine.
Ah oui, quand ils veulent te faire travailler.
Ouais, c'est ça. Le patron me dit que je travaille tant.
Aujourd'hui, les ouvriers chinois, si vous leur faites pas faire des heures supplémentaires, ils s'en vont. C'est eux-mêmes qui vous les réclament. Alors, quelque part, je voudrais pas être polémique, mais est-ce que on a le droit de dire aux gens, arrêtez de travailler, non, vous gagnerez pas plus que ça. Bah, laissez-les bosser s'ils ont envie de bosser.
Pour résumer, en fait, ce qui se passe en Chine, pour vous et pour les autres entrepreneurs, c'est un modèle de capitalisme vertueux.
capitalisme est-il ou n'est-il pas vertueux? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous, on respecte la loi, donc en ce sens, on est effectivement vertueux. Il n'y a pas de petits-enfants qui travaillent chez nous, donc dans ce sens, on est aussi vertueux. On essaye de travailler avec nos ouvriers et pas contre nos ouvriers, donc ça aussi, c'est vertueux. Mais on est aussi des entreprises capitalistiques à la conquête de la Chine, et ben, là aussi, il faut être vicieux, hein, de temps en temps, pour réussir dans le business. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas plus capitaliste qu'un Chinois. Hein. Alors moi, j'aurais tendance à dire qu'on n'est pas vertueux, mais on sait faire du business proprement dans ce pays.
Alors là, on est à Shenzhen, donc on n'est pas loin de ce parc, j'allais dire d'attraction, non, ce parc industriel européen. Et avec, nous sommes avec le docteur Liu Keiming, on l'a déjà rencontré dans cette émission. Il est un ancien journaliste, il est docteur en littérature et surtout il est directeur de l'Institut d'observation contemporaine qui essaye, et qui réussit avec une certaine efficacité, tout simplement de défendre un peu, vous avez vu, le droit du travail, les relations dans l'entreprise, le développement harmonieux de la société, de l'économie, etc., etc., et qui connaît bien cette société chinoise, surtout les sociétés chinoises et étrangères, et la façon dont les choses se passent à l'intérieur de ce petit monde de l'entreprise en Chine. Liu Keiming.
Donc maintenant dans la ville de Shenzhen, la plupart des habitants ils sont des gens de l'extérieur, des Mingong, et c'est eux qui a créé la plupart de la fortune de cette ville.
在这里完全没有任何的政治权利，没有任何的民主权利，全是让政府能够关注他们，所以他们的工资非常低，他们的孩子不能上学。
Mais au contraire, ces Mingong, ils n'ont pas du tout de bien-être, ils n'ont pas du tout de pouvoir politique, ils n'ont pas du tout des associations, des syndicats pour se défendre. Leurs conditions de travail, de vie, c'est très mauvaise.
所以这个城市的政府和这个城市的企业可以非常迅速地积累它的资本。所以在深圳的过去27年，它的平均增长率，经济增长率是28.7%。
Donc c'est pourquoi les sociétés, les usines de cette ville ont pu s'enrichir très très rapidement en très peu de temps. Et le taux de croissance de l'économie de cette ville depuis une vingtaine d'années, c'est en moyenne 28,7%.
Donc c'est une, vous voulez dire par là que c'est une ville très riche?
Oui, c'est la plus
riche de Chine.
Mais dans le budget du gouvernement, dans le gouvernement, chaque année, 599 millions de budget,
Mais parmi le budget du gouvernement annuel, c'est-à-dire 59 milliards 900 000 RMB, rien n'est pour les travailleurs. Donc leur vie, c'est dur.
Voyons d'un peu plus près maintenant, si vous voulez bien nous donner des précisions quand même sur les conditions de travail des Mingong.
Donc en général, les ouvriers qui travaillent dans des usines, ils ont un jour de vacances par mois, c'est déjà pas mal. Leur salaire mensuel, c'est entre 600 et 800 yuan.
C'est-à-dire entre 60 et 80 euros mensuels.
Oui.
Pour combien d'heures?
12 heures par jour.
60 à 80 euros par mois et un jour de congé par mois. Des vacances?
Non.
Seulement
pour la fête du Nouvel An chinois, c'est-à-dire la fête du printemps. Mais pendant ces vacances, ils ne sont pas payés.
Il n'y a pas de congé payé.
Non, pas du tout.
La santé, les conditions de santé maintenant, la sécurité sociale.
Non, ils n'ont rien.
Si ces ouvriers sont malades, eux ou leurs enfants ou leur famille, qu'est-ce qui les prend en charge?
Personne ne paye. Rien pour le peuple.
Surtout
les Mingong.
Mais je voudrais que vous me parliez aussi du travail des enfants. Vous avez pu observer, constater du travail d'enfants dans ces entreprises ici.
Oui,
c'est
un problème grave.
D'après la loi chinoise, les ouvriers enfants moins de 16 ans, c'est illégal.
Donc
en Chine, 10% des enfants finissent pas leurs études de collège, de l'école primaire.
La scolarité de base, c'est 9 ans en Chine.
9 ans. 然后呢，另外一个我们中国完成基础教育，就是九年毕业的时候，一般是15岁到16岁就毕业。
Dans ce cas, ils sortent pour travailler, pour chercher du travail à partir de 15-16 ans.
Mm-hmm. 80%
Et 80% des enfants qui ont déjà fini leurs études des 9 ans d'éducation de base, ils ne continuent pas. Parce que ici, dans les usines en Chine, les main-d'œuvre manquent.
再一个呢，中国做一个假身份证是非常容易的。
En plus, en Chine, c'est très facile de faire une fausse carte d'identité.
所以呢，16岁以下进工厂的工人非常多。
Donc, il y a beaucoup d'enfants moins de 16 ans qui peuvent entrer dans des usines pour travailler.
Quand on dit enfant, c'est quel âge?
一般是13岁到14岁。
De 13 ans à 16 ans, moins 16 ans.
Et quel est le pourcentage d'enfants dans les entreprises chinoises?
5%, 600万。
5%. Ça fait
6
millions.
Donc
ce chiffre est déjà reconnu par le gouvernement.
Ah, c'est le chiffre que reconnaît le gouvernement. Qu'est-ce qu'ils font contre ça?
Ça veut dire
le gouvernement central. Il a promis on va changer tout ça.
C'est inacceptable.
Ouais, mais après, c'est les officiels locaux qui vont réaliser, mais ils ne font pas ça.
Ils ne le font pas. C'est eux qui doivent le faire, c'est eux qui doivent appliquer, mais ils ne le font pas.
En Chine, on
déclare comme ça, et on fait autrement.
Alors Jacques Jumeau, on vous retrouve ici à Gaoming parce que vous êtes un des entrepreneurs français qui est là depuis le plus longtemps dans la région de Canton.
Une dizaine d'années, oui. Effectivement, une dizaine d'années. La société JPC Control, actuellement, c'est une société qui fabrique des composants électromécaniques destinés à des applications en électroménager, dans les biens d'équipement.
Votre boîte, à l'origine, elle était basée en France?
Oui, la société JPC existe en France depuis 1975. Et toujours présente sur le marché français, fabrique toujours en France, mais progressivement, au cours des années, nous avons perdu tous les marchés électroménagers, tous les marchés de grande série.
Toutes les usines d'électroménagers.
Oui, c'est-à-dire que mes clients principaux en France ont disparu aussi, sont délocalisés.
Donc pour vous, c'est un modèle de délocalisation réussi?
Délocalisation? Non. Augmentation de nos performances à l'export, je dirais plutôt. C'est un tabou, on ne peut pas parler de délocalisation.
Dès qu'on parle... Ça, c'est rien, c'est la dame du café qui est en train de renverser une bouteille.
Non, il y avait des années qu'il ne nous était plus possible de vendre à l'export. Et d'autre part, notre clientèle française disparaissait. Je suis arrivé ici en se disant, si j'y arrive pas, je crève. La société JPC disparaît.
C'était où, votre usine?
Toujours implantée en Seine-et-Marne. Actuellement, c'est 30 personnes.
Vous avez combien de salariés ici?
Environ 300. C'est pas beaucoup, hein. Pour les entreprises locales, c'est une toute petite PME. Mon voisin fait 50 000 salariés. Il fabrique des chemises en coton.
Et oui, voilà, toute petite entreprise française, effectivement, avec seulement 300 salariés. Vous avez entendu, le voisin, 50 000. Voilà, la chemise que vous portez, que je porte, elle vient peut-être de là. Il y a pas mal de chances. C'est marrant d'enlever dans une maison tout ce qui est fabriqué en Chine. Il y aurait beaucoup de choses qui disparaîtraient et pas mal de nous se retrouveraient plus ou moins à poil. Et oui, c'est ça l'atelier du monde. Et c'est ça les Français, c'est les entrepreneurs français qui se sont installés là-bas et qui sont assez contents.
Vu de la Chine, ce qui se passe actuellement en France, Je comprends que Bush ait dit la vieille France, hein, ou la vieille Europe. Je comprends. Pour moi, c'est un pays qui n'a plus de motivation, où les gens sont déjà découragés avant de commencer de faire quelque chose. Le rêve chinois, c'est un petit peu le rêve américain. C'est-à-dire que le développement actuel est tellement important, croissance est tellement importante.
Croissance à deux chiffres.
Il y a la possibilité, l'espoir pour tout le monde de se développer, de se mettre à son compte, de créer sa propre société ou son propre commerce. Et on n'est pas ici en train de transformer les entreprises en sécurité sociale bis. Je pense qu'en France, on a perdu de vue quelle était la logique d'une entreprise. L'objet social d'une entreprise, ce n'est pas de se substituer à l'État. Une entreprise, c'est d'abord réaliser des bénéfices. Malheureusement, ce qui est arrivé, ce qu'on a vu arriver en France au cours des 15 dernières années, progressivement, sont des liens, des menottes, des... Je dirais, on en est peut-être maintenant au barreau sur la porte pour le chef d'entreprise. Mais je pense qu'on a été un petit peu trop loin. Ça me dérange. Juste ici, ça... Quand je vois les capacités qui se perdent et pour lesquelles il y a des marchés tellement intéressants, importants ici, il y a des jours, je suis un petit peu désespéré de voir que rien ne bouge.
Il y a un côté Far West ici quand même, mais c'est le Far Est.
Oui, c'est un côté Far West. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui sont à faire, tellement de choses à créer, à développer. C'est ouvert, c'est un marché ouvert. Et il faut être ici à l'affût de voir ce qu'on peut faire. C'est-à-dire que le fait d'y être permet de voir des opportunités tous les jours.
Qu'est-ce que vous pouvez faire ici que vous ne pouvez pas faire en France pour mener votre boîte?
Ce que je vais faire tout de suite, c'est aller aux toilettes.
À la une ce matin, la Chine qui poursuit sur sa lancée pour la quatrième année consécutive. C'est encore une croissance à deux chiffres.
Oui Jean-François, 4 ans de croissance sans discontinuer à plus de 10%, les Chinois ne semblent pas prêts de s'arrêter en si bon chemin. Forcément, à ce rythme-là, la Chine, quatrième économie de la planète, grimpe au palmarès des pays les plus performants. Elle pourrait même ravir à l'Allemagne sa troisième place des 2008.
Beaucoup d'ouvriers qui sont immigrés, qui viennent des régions pauvres du centre de la Chine.
Et ça, c'est une majorité des ouvriers qu'on retrouve dans les usines, dans le coin.
Oui,
c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les Mingong, quoi, les migrants.
Oui, parce que, bien entendu, la demande en main-d'œuvre est tellement importante dans ces zones côtières où nous sommes, là, que bah, c'est un petit peu comme quand on faisait venir les Auvergnats à Paris.
C'est Bécassine qui vient de sa Bretagne.
Exactement, exactement, c'est la même chose qui se passe ici. C'est quelques années de labeur qu'ils souhaitent intensif ici, de manière à gagner le maximum d'argent pour rentrer chez eux. Ils en veulent, oui, ils en veulent.
Vous êtes des travailleurs, vous vous déplacez au fur et à mesure des chantiers, c'est ça? C'est-à-dire, vous vous déplacez, à chaque fois qu'il y a un nouveau chantier, vous allez sur les nouveaux chantiers. Les femmes aussi travaillent sur le chantier.
Les hommes, ils travaillent dans le chantier et les femmes, ils travaillent dans les usines.
Vous travaillez dans une usine?
Textile.
Tu fais de la confection?
Oui.
Vous aussi?
Elle travaille ici.
Elle travaille ici sur le chantier?
Oui.
Qu'est-ce que vous faites sur le chantier?
Des petits bureaux, par exemple, porter des briques pour les hommes.
C'est pas un petit boulot de porter des briques pour les hommes. Et toi qui travailles dans la confection, je vous tutoie parce que vous êtes plus jeune que moi et je ne veux pas que les auditeurs soient étonnés de ce qu'on se tutoie. Toi, tu travailles dans la confection, tu travailles combien d'heures par jour dans la confection? 12 heures par jour.
La plupart des usines, on travaille 12 heures.
Et tu travailles tous les jours ou tu as un jour de repos dans la semaine?
Le dimanche, si je veux, j'ai envie de continuer à travailler, je travaille. Si je veux reposer, je peux me reposer.
D'accord, mais tu peux travailler plus pour gagner plus, si tu veux. Et tu gagnes combien par mois?
En moyenne, 1000 yuan par mois.
1000 yuan. 100 euros par mois. Voilà, ces travailleurs que nous avions rencontrés, souvenez-vous, à Xiling le soir
du nouvel an chinois, la nuit du nouvel an chinois. Chine, terre de contraste, hein, c'est très très contrasté entre ses patrons, là en l'occurrence des patrons français, et les travailleurs. Le point de vue de Jacques Vallat, un entrepreneur français, lui aussi implanté en Chine, ou plutôt c'est sa société Extruflex qui l'a implanté dans ce pays.
Ce qui est extra admirable en Chine, c'est que pour un pays communiste, dirigé par un parti communiste, un État extrêmement centralisé sur le plan des grandes décisions, avec une délocalisation au niveau des régions, et bien dans ce pays, c'est la loi du marché qui prime. C'est-à-dire que la loi du marché, elle joue aussi sur l'offre et la demande d'emploi. Et aujourd'hui, parce qu'on a une demande énorme de gens compétents, le type compétent se fait payer plus cher et démissionne sans aucun problème.
Et j'ai l'impression à vous entendre que la France est plus communiste que la Chine.
Alors ça, c'est une certitude. Hein. Mais c'est évident que c'est une certitude. C'est évident. On n'est pas communiste, mais c'est vrai qu'en France, on a un pays qui est arrivé à une extrême socialisation. Je veux dire que la liberté d'entreprendre existe, mais elle est tellement contrainte qu'à la sortie, elle n'existe plus. Le pouvoir de l'État est tel, l'État fonctionne quand même entre le budget de l'État, la sécu, etc. On est quand même à pas loin, je crois, pas dire sottise, 60% du PIB français. Donc c'est colossal. C'est absolument énorme.
Justement, on n'a pas dit un mot sur les cotisations sociales, la sécu, ça, la retraite.
Ça, c'est probablement aujourd'hui un petit peu le bas qui blesse. C'est-à-dire que...
Un petit peu.
Oui, parce qu'il n'y a pas suffisamment de protection, je dirais, au niveau de l'ensemble de la population qui travaille pour l'avenir et pour leur pension. Mais le gouvernement chinois est en train de bouger par rapport à ça. Hein. Mais c'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui en Chine... Dans ce capitalisme dit sauvage, dans cette grande liberté d'entreprendre, dans cette grande liberté de l'offre et de la demande du travail, donc dans un vrai régime capitaliste libéral, il y a effectivement un côté social qui n'est pas encore tout à fait bien étoffé. Mais je pense que ça va venir tout doucement, et parce que les gens feront pression. Je veux dire qu'il faut aussi leur laisser le temps d'avancer étape par étape. Hein. La propension française et européenne, c'est de dire ils sont en train de nous piquer nos emplois, il faut les mettre au même niveau que l'Europe, etc. etc. On a mis 19e et 20e siècle pour mettre tout ça au point. Bon, on peut laisser peut-être aux Chinois 20 ans pour arriver à notre niveau, pour mettre un système social en place, pour protéger la population. La Chine est paradoxale. Il y a ce parti communiste qui a besoin de continuer à croire qu'il est encore un peu communiste. Mais c'est fondamentalement un parti centralisé qui dirige un pays énorme. C'est un gage de stabilité absolue.
Et ça, c'est ça un prix.
Le prix de ça, bien évidemment, c'est une sévérité du régime exceptionnelle par rapport à certains mouvements de population. Bon, alors moi, je ne me permettrai pas de juger ça. Quand vous avez 1,4 milliard de gens à gérer, j'ai connu la Chine en 82... Je peux vous dire que si tous les pays émergents du monde pouvaient signer un bail de 26 ans en disant « je démarre de négatif et que j'arrive au niveau de la Chine 26 ans après, je vote Parti communiste chinois demain matin ».
Vous avez déjà voté communiste, vous ?
Non, jamais. Mais j'étais ancien gauchiste de Nanterre. Oui, oui. Hein, mais non, parce que c'était logique.
Hein. Dites-moi deux mots quand même.
J'ai 61 ans, j'étais à la fac à Nanterre quand elle s'est créée. Et bien évidemment, 80% des étudiants, on était gauchistes.
Gauchiste, quelle étiquette ?
Situationniste. J'étais donc anarchiste. Hein. Mais je crois que ce qui est important dans ce que je vous dis là, c'est pas ce que j'étais moi. Ce qui est important, c'est que quand je dis que la France est socialiste, c'est pas forcément à cause des règles du système. Elle est socialiste parce que les Français croient sincèrement que c'était le bon système et que c'est encore le bon système. Mais je pense qu'on peut pas éliminer 30 ans d'université française marxisante. C'est-à-dire qu'effectivement, la vision du monde passait à travers une pensée marxiste. Et si en France, on commençait par le bon bout, c'est-à-dire à réformer nos règles, à réformer nos lois,
c'est-à-dire
les 35 heures, le code du travail, qui est aujourd'hui une aberration mentale. Je veux dire que, amusez-vous à lire le code du travail, il vous faut 2 mois et demi, et vous n'aurez pas tout compris. Donc, mais là aussi, est-ce que la population française, je reviens à mon premier jugement, est-ce qu'aujourd'hui la population française, elle est parfaitement heureuse ? Moi j'ai l'impression qu'elle est heureuse telle qu'elle est. Travaille 35 heures par semaine... On a avec les RTT, etc., quand on met tout bout à bout, on se rend compte que c'est entre 6 et 7 semaines de congés par an, parce que finalement, c'est pas le paradis. En Chine, c'est le contraire. En Chine, pour l'instant, les gens, ils ont 10 jours de vacances par an, tout le reste, ils travaillent, et ils ont une telle soif de consommation, d'augmenter leur standing de vie, etc. Bon, ben, je pense que ça a dû se passer de la même façon dans l'Ouest américain ou dans l'Est américain au début de l'immigration européenne aux États-Unis. C'est-à-dire que les gens ont envie de gagner de l'argent, ont envie de liberté, ont envie de consommer, ont envie d'améliorer leur vie. Est-ce que c'est un besoin d'Europe? Je ne sais pas. En Chine, je peux vous garantir que ça fonctionne comme ça.
Parole de patron français, mais qui, à 61 ans, n'oublie pas ce qu'il fut. Il fut à Nanterre, en 1968, un gauchiste, un situationniste, dit-il, un anarchiste. Et donc, il se souvient de tout cela, même s'il a beaucoup changé. Quelque chose qui pourrait peut-être activer cette exigence d'égalité, de justice sociale des Chinois pourrait être le travail d'une association comme celle que dirige Liu Kaiming. Ses conclusions.
Donc,
je veux ajouter une chose aujourd'hui pour défendre les droits, les intérêts des ouvriers. Ce n'est pas seulement un travail de la Chine, c'est le travail du monde, parce qu'aujourd'hui, on est entré dans l'époque de la mondialisation.
Donc,
je suis sûr que le destin des ouvriers chinois est lié au destin des ouvriers français.
C'est l'international, c'est Karl Marx.
但是在这一次 globalization 这个时候 资本家已经团结在一起了 但是我们工人 全世界工人是一盘散沙
Mais à l'intérieur de cette internationale, ce sont les capitalistes qui se sont unis ensemble, pas les ouvriers.
资本家他们的钱越来越多 穷人工人
Donc les capitalistes, ils ont de plus en plus d'argent et les ouvriers, ils ont de moins en moins d'argent.
Ça, c'est très important ce que vous dites là. La globalisation, à travers les délocalisations, ont appauvri une grande partie du pays, une grande partie de la classe populaire, avec une augmentation considérable de la précarité dans l'emploi. Mais on dit, il y a des délocalisations, les entreprises s'installent en Chine. Et à part ça, on se dit, bon, c'est vrai qu'après tout, c'est peut-être bien pour ces pays en développement, parce que ça apporte du travail à des gens très pauvres, très modestes, etc. Et ça leur permet peut-être d'augmenter, de voir leur niveau de vie augmenter. Or, ce que vous dites, et ce que nous constatons, c'est que cette histoire-là est fausse. C'est-à-dire que l'appauvrissement des travailleurs français et des classes populaires françaises n'enrichit pas et ne sort pas de la pauvreté la classe ouvrière de la Chine et de ces pays-là.
Donc le salaire des ouvriers actuels aujourd'hui reste toujours les mêmes choses qu'il y a 10 ans.
C'est ça. Il n'y a pas d'amélioration. Il faut bien dire ça au monde. Il n'y a pas d'amélioration du sort des classes populaires en Chine. Il y a une amélioration considérable de quelques fortunes. Il y a la constitution d'une classe moyenne qui concerne peut-être 100 millions de Chinois. Mais pour le reste, la classe populaire chinoise, son sort ne s'améliore en rien.
En Chine, il existe encore 200 millions de Chinois qui gagnent moins de 1 dollar par jour. Ni éducation, ni sécurité sociale, ni retraite pour 650 millions de Chinois.
Est-ce que ça, c'est viable longtemps, ça?
Depuis
28 ans, la Chine a passé la période de changement économique. Et maintenant, je pense que ces 10 ans, c'est une période très, très importante pour la Chine, pour le gouvernement chinois. Si le gouvernement n'arrive pas à bien changer le système politique, c'est très grave, c'est très dangereux. au cours de grands risques.
Voilà, vous voilà avec des biscuits, j'espère, pour regarder les Jeux Olympiques au mois d'août avec un regard un petit peu différent. C'était une suite de reportages avec Guy Van Til. Merci à Luc Heyming, à Joël Pujol, Jacques Jumeau, Jacques Vallat, Jean-Luc Chira, Boris Duhamel, Bruno Biroli du Nouvel Observateur et Michael Stanke de RFI. Traduction Luc Richard et Yang Yang. À lire La face cachée de la Chine, toute la vérité sur la plus grande jungle économique du monde de Jean-Marc et Idir Plantade chez Bourrin Éditeur, et le livre de notre ami Luc Richard, Pékin 2008, pourquoi la Chine a déjà gagné, aux éditions 1001 Nuits. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez écouter cette émission également sur là-bas.org. La technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Aurélie Fortin, Yann Chouka et Koyen Nguyen ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Berry et Christophe Imbert. Attend vos messages au répondeur de la basse J'y suis au 01 56 40 37 37. Il est 16h sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour la basse J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec les reserves agencées.